Deuxième partie. Le garçon différent des autres. Chapitre 7. Dans les rues d'Antibes. Ce livre est peut-être un roman policier, mais moi je ne suis pas policier. Jesse Kellerman. 1. En arrivant à Antibes, je me garais, comme j'en avais l'habitude autrefois, sur le parking du port Vauban, là où étaient amarrés quelques-uns des plus beaux yachts du monde. C'est ici, lors du mois de juillet 1990, j'allais avoir 16 ans, que j'avais effectué mon premier job d'été. Un boulot à la con qui consistait à soulever la barrière du parking après avoir délesté les touristes de 30 francs pour leur permettre de parquer leur voiture sous un soleil de plomb. C'était l'été où j'avais lu « Du côté de chez Swann », édition folio classique, avec la cathédrale de Rouen peinte par Claude Monet en couverture, et où j'étais vaguement tombé amoureux d'une jeune Parisienne aux cheveux blonds ondulés coupés au carré, qui répondait au beau prénom de Bérénice. Lorsqu'elle allait à la plage, elle s'arrêtait toujours devant la guérite du parking pour échanger quelques mots avec moi, même si j'avais compris assez vite qu'elle s'intéressait davantage à Glenn Medeiros et aux New Kids on the Block qu'aux tourments de Charles Swann et d'Odette de Crécy. Aujourd'hui, une barrière automatisée avait remplacé les petits jobs d'été. Je pris mon ticket, trouvé une place près de la capitainerie et longé les quais. Beaucoup de choses avaient changé depuis 20 ans. On avait redessiné complètement l'accès au port, élargi la chaussée, piétonnisé une bonne partie de la zone. Mais la vue restait la même. Pour moi, l'une des plus splendides de la côte. Le bleu de la mer au premier plan, la silhouette massive et rassurante du fort carré qui émergeait derrière la forêt de mâts de bateaux, le ciel d'azur qui emportait tout, et les montagnes discrètes que l'on devinait au loin. C'était jour de Mistral, et j'adorais ça. Tout concourait à me reconnecter à mon passé et à me faire à nouveau prendre racine dans cet endroit que j'aimais et que j'avais quitté pour de mauvaises raisons. Je ne me faisais pas d'illusions. La ville n'était plus celle de mon adolescence, mais comme New York, je continuais à aimer l'idée que je me faisais d'Antibes. Une ville à part, préservée du clinquant de certains autres coins de la côte. La cité du jazz, celle des Américains de la Lost Generation, celle que j'avais fait découvrir à Vinca, celle qui, de façon extraordinaire, avait accueilli la plupart des artistes qui avaient compté dans ma vie. Maupassant y avait amarré son bateau, le Bel Ami. Scott Fitzgerald et Zelda avaient dormi aux Belles Rives après la guerre. Picasso avait installé son atelier dans le château Grimaldi, à deux pas de l'appartement où Nicolas de Staël avait peint ses plus beaux tableaux. Keith Jarrett, enfin, l'auteur de la bande originale de tous mes livres, continuait régulièrement à faire escale sur la scène de la Pinède. Je passais sous la porte marine, la ligne de démarcation entre le port et l'ancienne ville fortifiée. On était un week-end de printemps, assez animé, mais la marée touristique qui dénaturait l'essence de la ville n'avait pas encore déferlé. Dans la rue Aubernon, on pouvait mettre un pied devant l'autre sans se faire bousculer. Cour Masséna, les maraîchers, les fleuristes, les fromagers et les artisans provençaux commençaient à plier bagages, mais la halle couverte vibrait toujours de mille couleurs. Ça parlait patois, ça refaisait le monde dans une symphonie de senteurs. Olives noires, agrumes confits, menthe, tomates séchées. Sur la place de la mairie, on célébrait le dernier mariage de la matinée. Un couple radieux descendait l'escalier, sous les vivas et une pluie de pétales de roses. J'étais à mille lieues de tout ce tralala. Se marier n'avait pour moi aucun sens aujourd'hui. Mais je me laissais contaminer par les cris de joie et les sourires qui éclairaient les visages. Je descendis l'étroite rue Sade, où mon père avait vécu dans sa jeunesse, vers la place nationale, et je musardai jusqu'au Michelangelo, l'un des restaurants les plus emblématiques de la ville, que tout le monde ici appelait Mamo, du nom de son patron. Il restait des places en terrasse. Je m'installai à une table et commander la spécialité du coin, une citronnade au pastis et au basilic. 2. Je n'ai jamais eu de bureau. Depuis les devoirs du CP, j'ai toujours aimé travailler dans des lieux ouverts. La cuisine de mes parents, les salles d'études des bibliothèques, les cafés du quartier latin. À New York, j'écrivais dans les Starbucks, les bars d'hôtel, les parcs, les restaurants. Il me semblait que je réfléchissais mieux dans un environnement en mouvement, porté par le flux des conversations et le bourdonnement de la vie. Je posais le livre de Stéphane Pianelli sur la table et, en attendant mon apéritif, je consultais les messages sur mon téléphone. il y en avait un, contrarié, de ma mère qui ne s'embarrassait pas de formules de politesse. « Zélie m'a dit que tu étais venu aux 50 ans de Saint-Exupéry. Qu'est-ce qui t'a pris, Thomas ? Tu ne m'as même pas prévenu que tu étais en France. Viens donc dîner à la maison ce soir, on a invité les Pellegrino. Ça leur ferait plaisir de te voir. »« Je t'appelle plus tard, maman. » lui répondis-je d'un texto laconique. Je profitais d'avoir mon iPhone en main pour télécharger l'application de Nice Matin, puis j'achetais les numéros en ligne datés du 9 au 15 avril. En les parcourant, je tombai rapidement sur l'article que je cherchais, celui signé par Stéphane Pianelli qui décrivait la découverte par des élèves du lycée d'un sac rempli de billets dans un casier abandonné. Sa lecture ne m'apprit rien de fondamentalement nouveau. J'étais surtout déçu de ne pas trouver d'image du sac de sport. Le papier était illustré d'une photo aérienne du campus et d'une autre représentant le vestiaire rouillé. Mais il était précisé que certains élèves ont fait circuler des clichés du butin sur les réseaux sociaux avant que la police leur demande de les effacer pour le bon déroulement de l'enquête. Je réfléchis. Il en restait sûrement des traces quelque part. Mais je n'étais pas assez calé pour les retrouver sans perdre du temps. L'agence antiboise de Nice Matin était à deux pas, place nationale, à côté de la gare des bus. Après une hésitation, je décidai d'appeler directement le journaliste. « Salut Stéphane, c'est Thomas. »«
Tu peux plus te passer de moi, l'artiste. »«
Je suis attablé chez Mamo, si t'es dans le coin, je t'invite à partager une épaule d'agneau. »«
Passe la commande, je termine mon article et je te rejoins. »«
Tu écris sur quoi ?»«
Le salon de la retraite et du temps libre qui vient de s'achever au Palais des Congrès. » C'est pas avec ça que j'aurai le prix Albert Londres, je te le concède.
En attendant Pianelli, je m'emparais de son bouquin et, comme chaque fois que je la regardais, je restais scotché par la fameuse photo de couverture. Celle qui représentait Vinca et Alexis Clément sur une piste de danse. Le cliché avait été pris lors du bal de fin d'année, à la mi-décembre, une semaine avant le meurtre du prof et la disparition de Vinca. Cette photo m'avait toujours fait mal. À l'acmé de sa fraîcheur et de sa beauté, Vinca dévorait des yeux son cavalier. Son regard débordait d'amour, d'admiration et de désir de plaire. Leur danse était une sorte de pas de twist que le photographe avait figé pour l'éternité dans une pose gracieuse et sensuelle. Grease, revisité par Robert Doisneau. Qui avait pris cette photo d'ailleurs ? Je ne m'étais jamais posé la question. Un élève ? Un prof ? Je cherchais le crédit au dos du livre, mais je ne trouvais rien d'autre que « Nice Matin, tout droit réservé ». Avec mon portable, je pris en photo la couverture et balançai le cliché par SMS à Raphaël Bartoletti. Raphaël était un photographe de mode ultra-coté qui vivait dans la même rue que moi, à Tribeca. C'était surtout un véritable artiste. Il avait une grande culture de l'image, un œil qui scannait tous les détails et une analyse des choses singulière et souvent pertinente. Depuis des années, c'est lui qui faisait toutes mes photos de promo, ainsi que celles qu'on voyait sur les quatrièmes de couverture. J'aimais son travail, car il parvenait chaque fois à aller chercher en moi une part de lumière dont j'avais sans doute été porteur il y a très longtemps, mais qui m'avait quitté. Ses portraits de moi me représentaient en mieux, en plus solaire, en moins tourmenté. L'homme que j'aurais pu être si ma vie avait été plus douce. Raphaël me rappela dans la foulée. Il parlait français avec un léger accent italien que beaucoup trouvaient irrésistible.
« Ciao, Thomas. Je suis à Milan. Le shooting pour la campagne Fendi.
C'est qui la beauté que tu m'as envoyée ?»«
Une fille que j'ai aimée il y a très longtemps, Vinca Rockwell.
Je me souviens, tu m'en as déjà parlé.
Qu'est-ce que tu penses de la photo ?
C'est toi qui l'as prise ?
Non.
Techniquement, elle est un peu floue, mais le photographe a su figer l'instant. » Il n'y a que ça qui compte, l'instant décisif. Tu sais ce que disait Cartier-Bresson ? La photographie doit saisir dans le mouvement l'équilibre expressif. Eh bien, ton gars, c'est ce qu'il a fait. Il a capté un moment fugace et l'a transformé en éternité.
Tu me dis toujours que rien n'est plus trompeur qu'une photo.
Et c'est vrai !
S'exclama-t-il. Mais ce n'est pas contradictoire.
Une musique monta à l'autre bout du fil. J'entendis une voix de femme qui pressait le photographe de raccrocher.
Je dois y aller.
S'excusa-t-il.
Je te rappelle.
J'ouvris le livre et commençai à le feuilleter. Il regorgeait d'infos. Pianelli avait eu accès au rapport de police. Il avait recoupé lui-même la plupart des témoignages obtenus par les enquêteurs. J'avais déjà lu le bouquin lors de sa sortie, et j'avais moi-même mené ma propre enquête lors de mes années parisiennes, interrogeant tous les témoins possibles et imaginables. Pendant 20 minutes, je parcourus l'ouvrage en diagonale. Mis bout à bout, tous les souvenirs des différents témoins racontaient la même histoire, qui au fil du temps était devenue la version officielle. Le couple quittant Saint-Aix dans l'Alpine. La jeune femme rousse aux cheveux de feu dans le train vers Paris. Le prof qui l'accompagnait, coiffé d'une casquette d'un club de foot allemand au nom imprononçable. Leur arrivée dans l'hôtel de la rue de Saint-Simon. La petite demoiselle qui demande du coca à la cerise. Leur passage dans un couloir et leur disparition le matin suivant. Lorsqu'il a relevé le veilleur de nuit, le réceptionniste a trouvé les clés de la chambre sur le comptoir d'accueil. Le livre posait des questions et mettait en avant quelques zones d'ombre, mais sans jamais apporter d'éléments probants pour esquisser une piste alternative qui tienne vraiment la route. J'avais un avantage sur le journaliste. Pianelli n'avait que l'intuition que cette histoire était fausse, tandis que moi, j'en étais certain. Clément était mort. Ce n'était pas lui qui avait accompagné Vinca lors de ces 2 jours. Mon ami s'était enfui avec un autre homme, un fantôme que j'avais traqué sans succès depuis 25 ans. 3.
Tu es plongé dans de saines lectures à ce que je vois, me lança Pianelli en s'asseyant devant moi.
Je levai la tête du livre, encore un peu étourdi par mon immersion dans les méandres du passé. Tu savais que ton œuvre était blacklistée à la bibliothèque de Saint-Aix ? Le journaliste piqua une olive noire dans une coupelle.
Ouais, par cette vieille chouette de Zélie. Ça n'empêche pas ceux qui veulent le lire de trouver le PDF sur Internet et de le faire circuler librement.
Comment tu expliques l'engouement des étudiantes actuelles pour Vinca ?
Regarde là,
dit-il en ouvrant au hasard le cahier photo de son bouquin. Je ne baissai même pas les yeux. Je n'avais pas besoin de contempler ces clichés pour connaître précisément l'image de Vinca. Ses yeux en amande, son regard absinthe, ses cheveux coiffés-décoiffés, sa bouche boudeuse, ses poses mutines, tantôt sages, tantôt provocantes.
Vinca s'était construite une image bien particulière,
résuma Pianelli.
Elle personnifiait une sorte de chic français, quelque part entre Brigitte Bardot et Laetitia Casta. Et surtout, elle incarnait une certaine liberté.
Le journaliste se servit un verre d'eau avant de lâcher une formule.
Si Vinca avait 20 ans aujourd'hui, ce serait une hit girl suivie par 6 millions de followers sur Instagram.
Le patron lui-même nous apporta notre viande et la découpa devant nous. Après quelques bouchées, Pianelli poursuivit sa démonstration.
Tout ça, c'est quelque chose qui la dépassait, bien sûr. Je ne prétends pas l'avoir mieux connue que toi, mais honnêtement, derrière l'image, il y avait une fille assez banale, non ?
Comme je ne répondais pas, il me provoqua.
Tu l'idéalises parce qu'elle s'est envolée à 19 ans. Mais imagine un instant que vous vous soyez mariés à l'époque. Tu vois le tableau aujourd'hui ? Vous auriez 3 mômes, mais elle aurait pris 20 kilos. Elle aurait les seins qui tombent et... Ta gueule, Stéphane !
J'avais haussé le ton. Il rétropédala, s'excusa, et pendant les 5 minutes qui suivirent, nous nous employâmes à faire un sort à l'épaule d'agneau et à la salade qui l'accompagnait. C'est moi qui finis par relancer la conversation. Tu sais qui a pris cette photo ? Demandai-je en lui montrant la couverture. Pianelli fronça les sourcils, puis son visage se figea, comme si je venais de le prendre en faute.
« Eh bien, »
admit-il en examinant à son tour le copyright,
« j'imagine qu'elle est dans les archives du journal depuis toujours. »«
Tu pourrais vérifier. » Il sortit son portable de la poche de son gilet et pianota un SMS.
« Je vais contacter Claude Angevin, le journaliste qui a suivi l'affaire en 1992. »«
Il travaille encore au journal ?»
Tu rigoles, il a 70 berges. Il se la coule douce au Portugal. Au fait, pourquoi tu veux savoir qui a pris la photo ?
Je bottais en touche. Tant qu'on parle d'image, j'ai lu dans ton article que les gamins qui ont trouvé le sac avec les 100 000 francs dans les casiers rouillés en ont posté des photos sur les réseaux sociaux.
Ouais, mais les flics ont fait le ménage.
Mais toi, tu les as récupérés.
Tu me connais bien.
Tu pourrais me les envoyer ? Il chercha les clichés sur son téléphone.
Je pensais que cette histoire ne t'intéressait pas,
ironisa-t-il. Bien sûr qu'elle m'intéresse, Stéphane.
C'est quoi ton mail ?
Alors que je lui dictais mon adresse, une évidence s'imposa. Je n'avais plus vraiment de réseau ou de contact dans la région, tandis que Pianelli vivait ici depuis toujours. Si je voulais avoir une chance de découvrir ce qui était arrivé à Vinca et qui nous menaçait, je n'avais pas d'autre choix que de faire équipe avec le journaliste.
Une collaboration, ça t'intéresse, Stéphane ?
Tu penses à quoi, l'artiste ?
On enquête chacun de notre côté sur la disparition de Vinka et on partage nos infos. Il secoua la tête.
Tu ne joueras jamais le jeu.
J'avais anticipé sa réponse. Pour le convaincre, je décidai de prendre un risque. Pour te prouver ma bonne foi, je vais te révéler quelque chose que personne ne sait. Je sentis tout son être se tendre. Je savais que je marchais sur un fil. Mais n'avais-je pas toujours eu cette impression de vivre ma vie en funambule ? Vinka était enceinte d'Alexis au moment de sa disparition. Pianelli me regarda, mi-inquiet, mi-incrédule.
Putain, comment tu sais ça ?
C'est Vinka elle-même qui me l'a dit. Elle m'a montré son test de grossesse.
Pourquoi tu l'as pas révélé à l'époque ?
Parce que c'était sa vie privée. Et parce que ça n'aurait rien changé à l'enquête.
Bien sûr que si, bon sang !
S'énerva-t-il.
Les investigations n'auraient pas été les mêmes. Il y aurait eu 3 vies à sauver au lieu de 2. L'affaire aurait été davantage médiatisée avec un bébé au milieu.
Il n'avait peut-être pas tort. Pour dire la vérité, jamais je n'avais pensé à ce trait vertical sur un morceau de plastique comme à un bébé. J'avais 18 ans. Je le voyais cogiter en s'agitant sur sa chaise. Il ouvrit son bloc-notes pour griffonner ses hypothèses et mit un bon moment pour redescendre.
Pourquoi tu t'intéresses tellement à Vinka si tu la trouvais si banale ?
Pianelli avait de la constance. Ce n'est pas Vinka qui m'intéresse. C'est celui ou ceux qui l'ont tué.
Tu crois vraiment qu'elle est morte ?
On ne peut pas disparaître comme ça. À 19 ans, toute seule ou presque et sans ressources.
C'est quoi ta thèse au juste ?
Depuis qu'on a retrouvé l'argent, ma conviction est que Vinka faisait chanter quelqu'un. Quelqu'un qui n'a probablement pas supporté d'être menacé et qui est devenu menaçant à son tour. Peut-être le père de son enfant. Clément, sans doute, ou quelqu'un d'autre. Quand il referma son carnet, plusieurs tickets s'échappèrent d'un des rabats. Un sourire illumina le visage du journaliste.
J'ai des places pour le concert de Dépêche Mode ce soir.
C'est où ?
À Nice, au parc des sports Charles Hermann.
On y va ensemble ?
Bon, j'aime pas trop les synthés.
Les synthés ?
On voit bien que t'as pas écouté les derniers albums.
J'ai jamais accroché. Il plissa les yeux pour convoquer ses souvenirs.
À la fin des années 1980, lors de la tournée 101, Dépêche Mode était le plus grand groupe de rock du monde. En 1988, j'étais allé les voir au Zénith de Montpellier. Leur son, c'était de la bombe.
Des paillettes brillaient autour de ses pupilles. Je le taquinais. À la fin des années 1980, c'était Queen, le plus grand groupe de rock du monde.
Oh là là, t'es sérieux en plus, c'est ça le plus grave. Tu m'aurais dit U2 à la rigueur, mais là...
Pendant quelques minutes, nous baissâmes la garde, lui et moi. Et pendant cet instant, nous eûmes à nouveau 17 ans. Stéphane essaya de me persuader que Dave Gahan était le plus grand chanteur de sa génération et je défendis la thèse qu'il n'y avait rien au-dessus de Bohemian Rhapsody. Puis le charme se rompit, aussi brutalement qu'il avait opéré. Pianelli regarda sa montre et se leva d'un bond.
« Merde, je suis à la bourre, je dois filer à Monaco !»«
Pour un article ?»«
Ouais, les essais du Grand Prix de Formule 1, le championnat international des bagnoles électriques !»
Il prit son sac besace et me fit un signe de la main.
« On se rappelle !»
Resté seul, je commandai un café. J'avais l'esprit embrouillé et la sensation que je n'avais pas très bien négocié cette manche. Au bout du compte, j'avais fourni des munitions aux journalistes et n'avais rien appris en échange. Et merde. Je levai la main pour réclamer mon addition. En attendant la note, je consultai mon téléphone pour jeter un œil aux photos que m'avait envoyées Stéphane. Je lui avais demandé les clichés par acquis de conscience, sans trop en attendre. Je me trompais. Au bout de quelques secondes, ma main tremblait tellement que je dus reposer le téléphone sur la table. Ce sac en cuir souple, je l'avais souvent vu traîner chez moi. Le cauchemar continuait.